L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Ouaz, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Tunis Akram Kharieff, expert en sécurité et en défense, fondateur et animateur du site d'information militaire MENA Défense. Avec lui, sur fond des grands bouleversements géopolitiques mondiaux favorisant l'émergence d'une architecture multipolaire, nous allons analyser l'évolution de la situation politique et sécuritaire en Libye et son impact sur le Maghreb et le bassin méditerranéen dans le contexte de la nouvelle alliance entre l'Algérie, la Libye et la Tunisie en remplacement de l'Union du Maghreb arabe, UMA, paralysée. A tout de suite sur les ondes de Radio Spoutnik Afrique. Le 22 avril à Tunis, lors d'un sommet tripartite, les chefs d'État d'Algérie, de Libye et de Tunisie ont créé un groupe censé se substituer à l'Union du Maghreb arabe, entré en mort clinique depuis au moins 3 décennies. En effet, suite à l'appel du président algérien Abdelmadjid Tebboune lors du sommet des chefs d'État du Forum des pays exportateurs du gaz qui s'est tenu fin février à Alger, à ses homologues tunisiens et libyens et mauritaniens de réfléchir à un autre format pouvant relever les défis politiques, sécuritaires, économiques et stratégiques auxquels fait face la région du Maghreb. Ce G3, appelé à s'élargir à la Mauritanie et au Maroc, s'il le désire dans le cadre des conditions du nouveau format, aura à faire face et vite à une situation régionale des plus tendues et dangereuses à cause de la guerre en Libye et de l'instabilité dans le Sahel qui deviennent de plus en plus des terrains où s'expriment les luttes d'influence des grandes puissances mondiales, dont les États-Unis, les pays de l'Europe du Sud, la Chine, la Russie et la Turquie. Il est clair pour de nombreux observateurs que c'est le noyau Algérie-Tunisie, vu que ces deux pays sont stables, qui sera le moteur de cette nouvelle alliance stratégique en Afrique du Nord et au Sahel, mais aussi dans le bassin méditerranéen. En effet, la Méditerranée représente un espace stratégique pour la Russie dès lors qu'il s'agit de sa voie d'accès aux mers chaudes ainsi qu'au Moyen-Orient. Étant le deuxième partenaire commercial de l'Union européenne, pour la Chine, l'accès à la mer Méditerranée via le canal de Suez est crucial dès lors que plus de 2/3 de son commerce emprunte la voie maritime. Depuis la réorientation de politique extérieure des États-Unis engagée sous la présidence Obama vers l'Indo-Pacifique, la marine américaine a diminué sa présence en Méditerranée. Néanmoins, sur le plan stratégique, la Méditerranée demeurera une zone d'intérêt pour les États-Unis à l'avenir, notamment dans le contexte de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine en tant que porte d'accès à la mer Noire. La Méditerranée est actuellement le théâtre d'un réarmement naval mondial sans équivalent. Il concerne, selon des spécialistes, l'ensemble des puissances de la zone et l'ensemble des bâtiments de surface ou de sous-marins. L'Algérie, à titre d'exemple, est en train de construire 2 porte-hélicoptères d'assaut. Elle possédera bientôt 10 frégates et 15 corvettes. Elle a également acquis, auprès de la Russie, 4 sous-marins supplémentaires de type Kilo 636. La modernisation de la marine algérienne a notamment permis la constitution de capacités offensives, notamment avec les forces navales concentrées à Marsel Kébir. Elle dispose également de capacités de tir quasi-balistiques avec les Iskander, des capacités de déni d'accès et d'interdiction de zones en Méditerranée occidentale à travers un dispositif de défense antiaérienne composé de S-300 et probablement aussi de S-400, et des systèmes perfectionnés de radars, notamment de type résonance, de brouillage et de guerre électronique. Ainsi, selon certains experts militaires, l'Algérie pourrait constituer une véritable bulle de déni d'accès dans le détroit de Gibraltar et jusqu'au sud de l'Espagne, dans une logique de sanctuarisation de la Méditerranée occidentale. Les forces navales tunisiennes disposent quant à elles de 36 patrouilleurs et de forces spéciales maritimes de haute qualification qui viennent s'ajouter à leurs homologues algériens. Ainsi, quelle est la situation en Libye et quelles sont ses interactions et avec l'environnement régional et international. Comment s'imbrique la situation libyenne à celle du Sahel, dans le contexte des élections présidentielles tchadiennes et du départ des forces françaises et américaines de cette région? Comment analyser ce retour en force de la Russie et de la Chine en Méditerranée? Le groupe de Trois a-t-il vocation à faire entendre la voix du Maghreb dans ce grand jeu? Pour analyser et tenter de répondre à toutes ces questions fondamentales, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Tunis Akram Khalief, expert en sécurité et en défense, fondateur et animateur du site d'information militaire MENA Défense. Akram Khalief, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Bonjour et merci à vous, merci aux auditeurs aussi.
Tout le plaisir est pour nous. Alors, Akram Khalief, depuis l'agression de l'OTAN sous instigation de la France contre la Libye en 2011 et le renversement et l'assassinat du guide libyen Mouammar Kadhafi, le pays, c'est-à-dire la Libye, n'arrive ni à résorber la violence, ni à revenir au processus constitutionnel et à accorder les différentes parties qui se disputent le pouvoir avec l'aide de puissances étrangères. Alors, première question, pouvez-vous nous expliquer où se trouvent les blocages et pourquoi l'ONU n'arrive toujours pas à faire avancer la situation en Libye?
Bon, d'abord, la problématique libyenne dépasse le cadre de la simple guerre civile avec deux ou trois parties qui s'affrontent. On est sur une sorte de conflit d'influence internationale et mondiale qui est alimenté par des grandes puissances et qui est aussi soutenu par des puissances régionales qui veulent jouer un rôle en Libye. Donc, en fait, la Libye est un pays qui part avec un très gros handicap. C'est d'abord un pays qui est très riche, qui a un sous-sol très très riche, qui dispose d'infrastructures énergétiques qui sont très développées, qui permettent d'exporter beaucoup de pétrole et de gaz vers l'étranger, donc plus que l'Algérie par exemple. La Libye a aussi un autre handicap, c'est que c'est un pays qui est sous-peuplé et très étendu. Donc c'est un pays où il y a à peine 5 à 6 millions de personnes qui y vivent. Pour un territoire aussi grand que l'Arabie Saoudite, par exemple, ou qui dépasse même l'Égypte et d'autres pays de la région, c'est un pays qui n'a pas eu de gouvernance centralisée moderne ces 60 dernières années. Malheureusement, depuis son indépendance, il n'a jamais connu de réelle gouvernance moderne, y compris des tentatives de gouvernance, disons, socialisante, progressiste, qui étaient vouées à l'échec, mais qui ont quand même réussi à constituer dans certains pays un noyau d'État solide qui n'a pas bougé. On l'a vu, par exemple, en Syrie, on l'a vu en Algérie, on l'a vu en Égypte, on le voit un petit peu partout. C'est vrai que c'est très difficile pour ces pays-là de faire une transition vers le monde, on le voit en Russie aussi, hein, vers la modernité, mais le noyau existe. La Libye a eu une sorte d'expérience hybride, à la fois progressiste, mais très, très traditionnaliste aussi, basée sur un tribalisme mis en avant depuis toujours. Donc, ajouter à ça une richesse, ajouter à ça donc des haines tribales et régionales à l'intérieur du pays, nous avons un cocktail qui est détonnant et qui fait qu'aujourd'hui, la Libye est divisée au moins en deux. Et qu'elle est en termes de pouvoir dans une sorte de vacance de pouvoir à la fois et de multiplication des pouvoirs d'un autre côté. Et ça pose un véritable problème. Donc pourquoi ça bloque ? Ça bloque parce que d'abord l'intervention internationale étrangère est très forte. Tous les acteurs mondiaux sont aujourd'hui présents en Libye. Russie, États-Unis, France, Italie, ce sont des acteurs qui sont présents de manière directe ou indirecte sur le plan militaire et ils ont une influence politique qui est avérée. Nous avons des acteurs régionaux comme les Émirats, par exemple, ou même à une certaine période Qatar ou la Turquie, qui joue un rôle militaire qui est avéré. Donc, toute cette galaxie d'acteurs militaires veulent d'une solution militaire et donc veulent d'une confrontation. Il se trouve que le peuple libyen est aussi en manque de volonté guerrière, ce qui est une très très bonne chose. Et donc il n'y a pas d'action déterminante militaire sur le terrain qui peuvent aujourd'hui départager donc la donne et qui peuvent faire en sorte qu'une partie prenne le pouvoir de manière définitive sur le pays. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une situation où l'ONU regarde en chien de faïence les différents acteurs, peine à appliquer ces résolutions, donc dont la fameuse résolution 1992 sur l'interdiction d'importer des armes vers la Libye. On voit que les grandes puissances font fi de cela, la Turquie, la France, les États-Unis, etc., les Émirats surtout. On voit des armes, on voit des hommes, on voit des troupes, on voit des mercenaires et essayent de faire la guerre en Libye.
D'accord. Bien, alors une deuxième question qui est un peu intrigante. Alors actuellement, ce sont les groupes armés qui contrôlent la Libye, vous venez de le rappeler d'ailleurs, générant donc des menaces terroristes sur le voisinage, comme l'Algérie, la Tunisie, peut-être aussi le Tchad, je ne sais pas comment les choses peuvent évoluer. Alors, mais aussi, y compris sur les pays de l'Europe du Sud, l'Italie, la France, la Grèce, Chypre, ne peuvent pas se sentir en sécurité, en tout cas, au moins à cause des flux migratoires qui peuvent contenir des éléments dangereux. Alors, néanmoins, à y regarder de près, on pourrait se demander légitimement si les puissances occidentales, notamment européennes, qui ont participé à la destruction de la Libye, n'ont pas intérêt à ce que la situation y change. Le fait est qu'ils ne font strictement rien pour aider à changer la donne, premièrement, et puis, est-ce qu'ils ne profitent pas, justement, d'une espèce de marché noir pour acheter le pétrole et pomper le pétrole libyen ou qui est actuellement dont la production et la commercialisation est contrôlée par les groupes armés. Alors, êtes-vous d'accord avec cette analyse? Et puis, selon vous, qu'est-ce qui se cache derrière cette attitude, disons un peu nonchalante, occidentale?
Et on est dans une situation d'une drôle de guerre, où tout le monde veut être présent militairement, tout le monde veut montrer ses muscles, mais personne ne veut faire la guerre. Et tout le monde espère que cette présence massive de troupes ou d'équipements fasse reculer un camp ou un autre. Donc, on veut faire la guerre comme sans vouloir la faire. On veut gagner des batailles sans faire la guerre.
On s'engage.
Et ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, donc tout le monde est en train d'essayer de renforcer ses positions, renforcer les bases qu'il occupe, essayer d'avoir plus d'hommes sur le terrain, plus de renseignements, etc. Et plus d'influence aussi, parce que il n'y a pas que l'influence militaire. On le voit par exemple dans le sud, dans le grand sud libyen, les Émiratis lancent des sortes de campagnes de corruption massive. Déguisée en aide au développement local, etc. On le voit à travers aussi le financement de certaines personnalités, acteurs politiques à l'intérieur du pays, qui sont directement payés pour prêcher la bonne parole des Émirats. Donc c'est par ce genre d'artifice que chacun est en train de se placer. Mais comme je l'ai dit en premier lieu, il n'y a pas de d'acteurs décisifs ayant pris d'action militaire décisive sur le terrain. Je pense par crainte de l'échec, parce que on a vu en 2020 la confrontation est et ouest. Et la tentative de prise de Tripoli par les forces de l'armée nationale libyenne a finalement échoué. Ces forces ont été repoussées par l'intervention turque et ça a donné lieu à une sorte de guerre froide entre l'Est et l'Ouest.
Mmh. D'accord. Alors, la question suivante, Akram Khalief. Depuis le mois de mars, pour la première fois en Libye, la présence d'une société sécuritaire privée américaine est devenue publique. C'est annoncé même officiellement. Alors, il s'agit de la société Amentum, dépendant du département d'État américain et du secrétariat à la défense. Cette entreprise a été créée en 2020, elle succède à l'entreprise militaire DynCorp, qui travaillait également avec les deux ministères et qui a dispensé des formations aux forces sécuritaires en Irak et en Afghanistan et autres. Et puis, selon les informations dont on dispose, le but de cette présence est de participer à la formation militaire de groupe des groupes armés, dont l'objectif de les intégrer dans les forces officielles de l'État. Voilà ce qui est dit. Maintenant, comment analysez-vous ce fait, vous en tant qu'expert militaire et puis expert de la région aussi, notamment dans le contexte du retrait des forces françaises et américaines des pays du Sahel, comme le Niger, le Mali et le Burkina Faso?
Et justement, l'utilisation de ces sociétés militaires privées comme force proxy très facile à utiliser, à retirer, à déployer, à dédéployer d'une région, ça permet plus de flexibilité aux États. Donc, ça permet aussi de préserver l'image des différents États en disant que officiellement leurs armées ne sont pas présentes. On a vu, vous savez, la Libye a été un terrain pour les sociétés militaires privées depuis une dizaine d'années. On a eu des sociétés ukrainiennes, on a eu des sociétés russes, on a eu des sociétés françaises. Par exemple, une des premières sociétés militaires privées ayant activé en Libye a été la SECOPEC, société militaire française bien connue et qui avait perdu justement son directeur général dans une attaque en Libye en 2012, il me semble, ou en 2011. Donc, l'histoire récente de la Libye est intimement liée aux sociétés militaires privées. Ça permet de la flexibilité aux grandes puissances et ça permet aussi de faire de l'argent. Faut pas oublier que ces sociétés-là sont là pour faire de l'argent. Elles sont liées aux différents ministères de la Défense et il faut leur trouver des marchés, il faut leur trouver des ressources qui ne soient pas de l'argent des contribuables de ces pays-là. Mmh. Donc idéalement, ils visent, on les a vus par le passé, ils ont visé le Mozambique, ils ont visé le Sud-Soudan, le Soudan, etc., à cause des potentialités minières et des potentialités aussi pétrolières dans ces régions-là. Aujourd'hui, le cas de cette entreprise qui arrive bien après une bonne dizaine d'entreprises militaires privées, y compris turques, on a eu Sadat qui était venu en Turquie, qui avait formé la police en Libye, qui avait formé une partie de la police libyenne. On a de très nombreuses sociétés. Donc, je pense que c'est un mouvement logique vous avez, je pense, très bien fait de préciser que, en fait, de mettre en parallèle le retrait américain et français du Sahel et d'Afrique avec ce renforcement des sociétés militaires privées. À mon avis, c'est une façon d'être présent sans être officiellement présent.
Et ça diminue en plus de ça les frais. Les frais humains, matériels.
Et politiques. Et aussi garder le siège chaud. Garder le siège chaud en attendant un avenir meilleur, en attendant peut-être un changement de cap des élites politiques africaines qui seraient peut-être tentées un jour, pour des raisons économiques ou financières, de renouer avec ces anciennes puissances coloniales. Donc, ils préfèrent avoir des acteurs payés justement sur la bête, comme on dit, qui garde le siège chaud et qui garde une possibilité pour ces grandes puissances de revenir sur le terrain.
D'accord. Alors maintenant, passons maintenant, après avoir un peu brossé le tableau de la situation, on fait un topo panoramique un peu. Alors, Nombreux sont les spécialistes sécuritaires qui avertissent les pays du Maghreb et du Sahel du danger imminent de développement rapide du terrorisme djihadiste dans la région, allant de la lutte des grandes puissances pour le contrôle des ressources de l'Afrique, notamment dans le contexte de l'échec de la guerre menée par les groupes djihadistes au Moyen-Orient, en Syrie, en Irak et ailleurs. Mais aussi, de temps en temps, on entend même des gens, des informations qui relatent, et je pars sous votre contrôle, j'aimerais avoir votre avis et ce que vous avez comme information sur le sujet, même des gens qui ont combattu en Ukraine et qui sont en train d'être déployés dans cette région-là. Alors, ma question, pour aller maintenant dans le fond du sujet, d'abord, quelle est votre analyse sur ce fait? Et le plus important, comment voyez-vous le rôle aussi bien du G3, donc ce groupe Algérie, Tunisie, Libye, et de l'Alliance des États du Sahel, dont la contre-mesure a apporté à ce danger? Y a-t-il possibilité de coopération entre eux?
Bon, je voulais d'abord peut-être un peu apporter des précisions à ce que vous aviez dit dans votre introduction en parlant du G3 Sahel, du G3, je fais un glissement, du G3 comme étant une entité qui est ouverte aussi au Maroc et à la Mauritanie. C'est pas tout à fait vrai. En fait, c'est une entité qui est voulue comme étant un noyau solide pour la construction d'une entité régionale qui soit intégrée, qui soit complémentaire et qui soit au service des peuples de la région. Mm-hmm. Donc il n'est pas dit que cette entité là soit ouverte uniquement au Maroc ou à la Mauritanie. Par exemple, aujourd'hui on le voit, pourquoi elle concerne ces trois pays là? Parce que il y a une véritable interconnexion routière, logistique, énergétique, aquifère. Mm-hmm. Les trois pays
D'ailleurs, le premier accord qu'ils ont signé, c'est sur la gestion des eaux potables.
Et qui est quelque chose d'énorme. Hein,
absolument.
Arriver à cet accord de manière aussi rapide, c'est un véritable exploit.
Absolument. Donc ce genre de problème, en général, c'est des problèmes qui créent des guerres même dans d'autres régions.
Et pas des unions. Donc c'est très très bien que dans une région comme ça, désertique en plus, les trois pays aient réussi à s'unir pour décider ensemble de leur avenir aquifère. C'est très important. Et donc la démarche est une démarche d'interconnexion. Mmh. Économique, humaine et politique entre deux différents pays qui partagent des frontières entre eux. Donc cette entité là est vouée plus à l'ouverture vers l'Égypte, le Niger, le Tchad, que disons peut-être la Mauritanie et le Maroc, qui sont encore plus éloignés. Je pense que dans l'urgence, c'est plus le Niger, le Tchad, le Soudan et l'Égypte qui sont concernés par cette interconnexion qui fait sens. Et donc quelque part les pays de l'AES. À travers le Niger, à travers le Tchad, à travers aussi le Mali qui est interconnecté avec l'Algérie et aussi fatalement la Mauritanie, on va avoir une ouverture progressive. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de créer une sorte d'entité qui serait attractive, qui réglerait des problèmes à d'autres pays, qui donnerait envie à ces pays-là de venir. C'est en aucun cas une entité de domination qui placerait un pays au centre d'autres pays pour les dominer. Donc c'est une sorte de partage d'avantages qui existe dans chaque pays vers les autres pays. Et donc je suis certain que l'extension surtout de la Libye vers le sud va bénéficier aux pays de l'AES, va faire bénéficier les pays de l'AES de cette expérience du G3 qui va s'ouvrir et devenir un G5, G6 qui, à mon avis, couvrira l'ensemble de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest.
D'accord, intéressant. Donc, la dernière question de la première partie, Karam Khalieff. Le partenariat de l'Algérie avec la Russie est un motif de préoccupation pour les Occidentaux, les États-Unis à leur tête, comme le montrent très bien les demandes il y a quelques temps de certains sénateurs pour sanctionner l'Algérie à cause de cette coopération. Donc, la Russie est de loin le premier fournisseur de l'Algérie en armement avec 67%. Et les États ont intensifié leur coopération opérationnelle avec un premier entraînement en commun des forces terrestres russes et algériennes qui s'est déroulé en octobre 2021 en Russie, au sud du Nord, les exercices navals russo-algériens à Alger aussi en 2021, ainsi de suite. Alors, comment l'Algérie et la Tunisie vont-elles, voient-elles, ou comment voyez-vous, vous, leur rôle dans le bassin méditerranéen, parce que c'est extrêmement important aussi, dans le contexte de la situation en Libye, en Syrie, au Proche-Orient.
Non, les deux pays, vous savez, la Tunisie en particulier, c'est Carthage, donc elle a un passé historique. La Tunisie n'était pas Carthage par hasard, elle l'était parce que elle dominait le détroit de Messine, elle avait cette possibilité d'interagir de manière très courte avec l'Europe, avec l'Italie, elle avait la possibilité de bloquer des voies entre la Méditerranée orientale et occidentale, donc elle a un positionnement stratégique très très important. Aujourd'hui, elle est au centre des flux commerciaux qui vont du canal de Suez jusqu'à Gibraltar. Donc, l'Égypte peut se poser comme une sorte de douanier en chef de la Méditerranée. L'Algérie a aussi un passé maritime très, très fort, avec une vocation de domination maritime de la Méditerranée occidentale qui a été historiquement connu, prouvé, etc. Donc, je pense que ces 20 dernières années, du moins ces 10 dernières années, l'Algérie a fait d'énormes progrès en termes d'armement dans le domaine de la marine. Mais on voit aussi que l'Algérie regarde avec beaucoup d'attention ce qui se passe en termes de, comme vous l'avez dit, d'interdiction maritime en mer Noire et en mer Rouge. Et on voit que aujourd'hui l'Algérie peut jouer sur les deux, donc sur les miser sur les deux cheveux, veau qui est ceux de la marine classique et aussi de cette nouvelle forme hybride d'interdiction maritime qui passe par les drones, qui passe par les missiles, etc., etc. Donc l'Algérie, de par sa position et de par ses moyens humain, matériel et financier, peut devenir aussi un acteur très, très important en Méditerranée occidentale, surtout si on y adjoint la Russie, la Tunisie et la Libye, qui aussi offrent des possibilités.
Parce qu'on ne peut pas imaginer quand même qu'avec ce qui se passe actuellement dans tout le bassin méditerranéen, en particulier actuellement en Méditerranée orientale, que cette alliance des trois pays ne prend pas en considération justement tous ces enjeux-là pour pouvoir d'abord se sanctuariser et se défendre les trois, et puis avoir les moyens de jouer un rôle important dans la profondeur du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest.
Non, clairement, parce que si on arrive juste à additionner les façades maritimes de ces trois pays, on arrive à couvrir plus de 80% de la Méditerranée, du sud de la rive sud de la Méditerranée, et surtout 80% de la ligne droite qui va de l'Égypte jusqu'à Gibraltar. Et qui représente la majorité des flux économiques qui traversent la Méditerranée, ce qui représente quand même 40% de l'économie mondiale, des exportations mondiales qui passent par par ce chemin-là. Et donc, avoir une alliance de ces trois pays qui, de plus, ont des moyens différents et des options différentes qu'ils peuvent prendre pour assurer leur profondeur stratégique, mais aussi leur domination réelle.
D'accord. Alors, chers auditeurs, la première partie de notre entretien s'achève. Je vous retrouve en compagnie de mon invité Akram Khalief pour la seconde partie de notre émission après une courte pause. À tout de suite.
L'Afrique en marche. Une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Spoutnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Akram Khalief, expert en sécurité et en défense, fondateur et animateur du site d'information militaire MENA Défense. Akram Khalief, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien.
Merci.
Alors, j'aimerais bien qu'on continue maintenant à poser cette alliance groupe de trois et ses probables coopérations avec l'AES du Sahel, mais dans un contexte plus global pour voir et bien identifier les enjeux aussi bien internes qu'externes de ces groupements d'États. Alors, selon Mackinder, qui est considéré comme Sir Halford Mackinder, le père de la géopolitique, le Southern Heartland, donc c'est la partie sud du cœur de l'île du monde, s'étend du Soudan à la pointe ouest de la Gambie sur la côte atlantique et couvre la partie de l'Afrique située en dessous du Sahara jusqu'aux forêts tropicales qui s'étendent au niveau de l'équateur. Et puis on a l'extrémité nord-est du Heartland, sud est constitué par l'Éthiopie et la Somalie qui ont accès au Yémen et il existe un passage à travers les steppes arabes vers le Heartland nord de l'autre côté. Alors, Mackinder évoque certaines similitudes entre les deux massifs désignés en ce qui concerne la facilité des liaisons de transport, les réseaux fluviaux et les terres fertiles. Bien, alors, il souligne notamment l'importance de la Syrie et de la Palestine historique en tant que lien entre l'Afrique et l'Eurasie. Et dans le contexte des conflits actuels en Syrie et dans la bande de Gaza, ainsi que des efforts déployés par les États-Unis pour maintenir leur contrôle sur la souveraineté libanaise et pour utiliser Israël comme mandataire en Asie occidentale, cela indique que Washington s'appuie toujours sur la formule de Mackinder, c'est qu'on est toujours dans la même configuration géopolitique pour définir sa stratégie dans la région. Bien. Alors, quelle place, à votre avis, pour le Maghreb dans le cadre de cette nouvelle alliance qui émerge et le Sahel dans la nouvelle architecture multipolaire en formation dans le monde ? Comment interagissent tous ces aspects-là, notamment avec toutes les turbulences qui existent actuellement en Méditerranée?
Donc, je vais quand même essayer de lier votre introduction à votre question et répondre par rapport à ça. Donc, ce qui n'est pas dit dans l'introduction et dans la théorie de Mackinder, c'est que on parle d'horizontalité des flux. Mmh. Ce qu'on voit ici, c'est que ce sont des flux horizontaux. Et donc, il faut voir le monde comme étant une sorte de millefeuilles de flux qui sont parallèles les uns aux autres et qui vont dans l'axe est-ouest. Et donc, qu'est-ce qu'on a ? On a eu ce découpage par les grandes puissances coloniales de l'Afrique de façon non pas horizontale,
mais
de
verticale.
Façon verticale.
Justement, les zones de tension, c'est l'intersection entre les deux flux verticaux et horizontaux.
Exactement. Mmh. Et pourquoi on voit dans le cas, et ça s'applique aussi à la Méditerranée, qui est horizontale, on le voit. Hein.
Oui.
C'est une mer qui est plus large que longue. Et pourquoi le Liban et la Syrie et la Palestine sont importants géographiquement, parce que lorsqu'on regarde la Méditerranée telle qu'elle est, cette région-là, donc le Levant, est une sorte de débarcadère naturel de biens et de marchandises pour alimenter l'Europe et l'Asie. Donc c'est géographique et c'est pour ça qu'ils sont stratégiques. Le rôle du Maghreb, le rôle de l'Afrique du Nord, Étant le chemin le plus court de Gibraltar vers ce débarcadère-là, et naturellement d'assurer la sécurité et le contrôle des flux. Et donc, nous revenons à cette vocation-là en constituant une entité régionale horizontale.
Mais aussi, il me semble que si l'on pense en termes de corridor horizontal, avec le corridor qui est pensé entre Dakar et Djibouti...
Exactement, j'allais arriver à ça.
Ah, excusez-moi,
Et on arrive au Sahel. Une alliance des pays, donc cette horizontalité qui serait appliquée au Sahel, remettrait en exergue les flux naturels qui allaient de Zanzibar jusqu'à Dakar ou de Bab el Mandeb jusqu'à Dakar et qui sont des flux et des voies naturelles, pas que pour le commerce, pour le pâturage, pour l'agriculture, etc. Et
le transport aussi.
Pour la répartition des eaux, le transport, etc. etc. Donc, l'existence ou la création d'alliances horizontales, ça fait sens, ça fait réellement sens. Et ça va dans le sens de la géopolitique, ça va dans le sens de la montée en puissance de ces régions-là, qu'on a exprès découpées de manière verticale pour qu'elles ne puissent jamais atteindre leur
de
puissance
naturelle. De toute façon,
naturelle.
Par exemple, dans l'émergence des BRICS, pour l'Inde et la Chine, c'est surtout les flux horizontaux et même l'Iran.
Exactement.
Ce sont les
Exactement.
Flux horizontaux qui les Exactement. Intéressent.
Tout à fait. Tout à fait.
D'accord.
Donc voilà, la place du Maghreb et du Sahel est centrale. On est en train de vivre un moment historique qui est une sorte de reconstitution naturelle de ces deux entités-là qui interagissent et qui ont cohabité naturellement pendant des centaines d'années. Et donc, on est en train de le vivre aujourd'hui.
D'accord. Alors, la Méditerranée représente un espace stratégique pour la Russie. Cependant, c'est grâce donc à son intervention en Syrie en 2015, que la Russie a pu disposer d'un véritable point d'appui sur ses forces, pour ses forces armées en Méditerranée. Et cette intervention lui a en effet permis de consolider sa présence dans le port syrien de Tartous, qui s'est considérablement développé, abritant une dizaine de bâtiments de tonnage faible mais relativement récent et performant, dont deux sous-marins par exemple. Et on a la Russie, y déploie également des systèmes de défense antiaérienne de type S-400, ainsi qu'un système de défense côtière Bastion P, doté de missiles de croisière anti-surface. Et outre la base de Tartous, la présence de Russes dans la région prend également appui sur une présence permanente au sein de la base aérienne de Latakia. Cette implantation fait donc de la Méditerranée orientale le pôle de rayonnement de la puissance russe dans la région. Donc là, on voit vraiment, un débarquement musclé, retour de plus en plus musclé de la Russie sur la partie orientale de la Méditerranée. Alors, comment analysez-vous ce retour ? Pensez-vous que cela soit un facteur de stabilité ou de tension ? Et puis, la mise en place par la Russie de systèmes de défense antiaérien participe à la création aussi de bulles de déni d'accès. Ainsi, en cas de crise, ces dispositifs pourraient-ils être mis à profit à des fins offensives et être mobilisés par les armées russes pour restreindre l'accès des forces occidentales et de l'OTAN au canal de Suez ou la mer Noire ou la Méditerranée orientale?
Bon, je ne sais pas si, je ne peux pas dire comme ça que si la Russie est sa présence est un facteur de stabilité ou d'instabilité dans une région. Il s'agit d'une projection de force et d'une domination d'une région. La Russie semble vouloir jouer ce rôle-là, donc de dominateur sur une région précise pour des raisons géostratégiques et économiques, parce qu'il y a des flux de marchandises, il y a aussi des pipelines qui passent, etc. Et donc la Russie entend jouer un rôle pour peut-être privilégier ses voies de communication à elle entre l'Asie et l'Europe. Donc c'est son dessein, et de toutes les manières le dessein de la Russie a toujours été de trouver des voies d'accès aux mers chaudes, donc mers chaudes, mer Méditerranée, mer océan Indien, etc. Donc ça c'est la vocation de la Russie. La Russie a toujours fait en sorte de vouloir y parvenir. C'est compliqué aujourd'hui parce qu'on parle de projection de force et non pas de continuité stratégique pour la Russie. Il y a toujours la Turquie qui est au milieu, mais pas que la Turquie.
En tout cas, selon la théorie justement américaine basée sur les écrits de Mackinder, Spikman et autres, on peut arriver jusqu'à Brzezinski et Kissinger, toute cette région-là sud, justement, c'est le flanc sud de la sécurité nationale russe. Donc, de ce point de vue, Akram Khariev, comment ces pays-là d'Afrique du Nord doivent réagir par rapport à ça et comment lancer un dialogue de telle façon à ce que et les intérêts des uns et les intérêts des autres soient respectés et soient préservés et ne pas être dans une logique de conflictualité ou d'incompréhension, parce que de leur côté, on peut bien comprendre quand ils voient des grandes puissances débarquer comme ça, mais aussi de l'autre, du côté de la Russie, c'est aussi légitime parce que en voyant ce qui se passe actuellement en Ukraine, toute l'avancée de l'OTAN vers ses frontières, ça s'explique aussi.
Il me semble que d'abord, il ne faut pas regarder le monde derrière la lunette de la guerre froide. Donc la Russie n'est pas l'URSS, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas d'idéologie derrière ce que fait la Russie, autre que
défendre ses intérêts,
l'économie, que défendre ses intérêts, expandre son économie, expandre son étendre ses capacités militaires, etc., de renseignement. Mais il n'y a pas de d'idéologie. Et donc la Russie n'a plus comme ce fut le cas de l'URSS, n'a plus ce besoin d'être partout et d'influer idéologiquement partout. La Russie a des intérêts qui sont très très concret et agit avec beaucoup de realpolitik, enfin devrait agir avec beaucoup de realpolitik, et donc comprendre là où elle peut faire des choses, comprendre aussi là où elle ne peut pas, ou là où elle doit partager son influence avec les pays occidentaux. Là aussi, les États-Unis, je pense que vis-à-vis par exemple de l'Algérie, on voit que les États-Unis, contrairement à ce que vous disiez par rapport aux sénateurs américains, je pense que il ne faut pas prendre la chose comme ça, il faut prendre l'inverse. Il faut dire oui, il y a eu des sénateurs américains qui ont demandé à ce que l'Algérie soit punie, et qu'a fait le gouvernement
des États-Unis
américains?
Oui.
Il n'a rien fait contre l'Algérie. Ça veut dire que le gouvernement des États-Unis est prêt à se confronter à ses propres élus pour défendre ses intérêts étant de garder une très bonne relation avec l'Algérie et de lui permettre aussi d'avoir de bonnes relations avec la Russie.
Donc c'était justement ça le sens de ma question, c'est-à-dire que
exactement.
Quand vous mettez les trois pays, comment ils doivent jongler, permettez-moi cette expression, parce que jongler entre les différentes cordes pour faire en sorte que leurs intérêts soient préservés aussi bien que des autres, mais sans qu'il y ait de conflictualité dommageable pour la région.
Il y a des pays qui sont naturellement alliés d'un bloc ou d'un autre. On peut parler, par exemple, de pays comme le Maroc, qui a toujours été l'allié de l'OTAN et des États-Unis. Et on a ce genre de pays émergents qui ont du potentiel, qui sont forts, qui ne représentent pas de menace directe pour les grandes puissances et qui ne doivent pas faire l'objet de disputes entre les grandes puissances. Ce sont des pays comme l'Algérie, ce sont des pays même comme la Libye. La Libye devrait devenir comme ça. Ce sont des pays comme l'Égypte ou comme l'Inde, où l'on voit que les grandes puissances n'ont pas intérêt à entrer en conflit avec d'autres grandes puissances autour de ces pays-là, parce qu'elles ne peuvent que perdre ces pays-là. Et donc, nous avons cette construction harmonieuse qui se fait entre les grandes puissances autour de ces pays pivots, donc dont l'Algérie, et dont la région Maghreb, on voit qu'il n'y a pas de grand risque de confrontation entre Washington et Moscou par rapport à ce qui se passe ou à l'attitude d'Alger ou de Tunis vis-à-vis de ces pays-là. Au contraire.
D'accord. Bien, c'est clair. Alors, le deuxième partenaire commercial, donc passons maintenant à l'arrivée de la Chine. Étant le deuxième partenaire commercial de l'Union européenne pour la Chine, l'accès à la mer Méditerranée via le canal du Suez est crucial aussi, dès lors que plus de deux tiers de son commerce emprunte la voie maritime. Et on a, pour la Chine, créé un réseau donc mondial de ports interconnectés est nécessaire et se traduit notamment par des investissements massifs dans des infrastructures portuaires. Et dans cette perspective, les ports méditerranéens constituent une cible de choix pour les intérêts chinois. On a vu les investissements chinois dans des infrastructures portuaires méditerranéennes concernant l'ensemble de la zone. Cherchel en Algérie, Port Saïd et Alexandrie en Égypte, Ashdod et Haïfa en Israël, le terminal Kampor du port Ambarli d'Istanbul, les ports de Savone, Trieste, Gênes et Naples en Italie.
Et le Pirée en Grèce.
Oui. Pour ne citer que cela, et certainement la dynamique va continuer. Alors, comment analysez-vous ces investissements chinois en Afrique du Nord et subsaharienne? Et puis, est-ce que, par rapport à ce que vous venez de dire avant que je vous pose cette question-là, qui est très très important, c'est le fait que donc il y a l'émergence de certains pays qui ont les capacités de revendiquer un statut et tout en ayant une politique extérieure harmonieuse avec tous les partenaires. Alors, les Occidentaux, dans ce cas-là, ont-ils raison de s'en inquiéter de cette arrivée de la Chine? Comme on le voit actuellement dans pas mal de médias occidentaux, notamment français d'ailleurs, qui parlent de la Cine-Afrique, soi-disant, entre guillemets, en remplacement de la France-Afrique qui est décédée.
Ben, les Occidentaux ont peur parce qu'ils perdent du terrain un peu partout face à la Chine, notamment de manière sur les questions économiques. On voit aussi que la Chine a une politique qui est réellement de non-ingérence dans les affaires politiques de ces pays-là. La Chine a aussi une politique sur le long terme avec ces pays-là, qui n'est pas liée avec les différents mandats politiques dans à l'intérieur du pays. On voit aussi que la Chine ne se soucie pas des questions liées à la liberté d'expression, à la liberté de la presse, aux droits de l'homme, etc. Donc, n'essaie pas d'appliquer la pression sur les pays africains sur ce sujet-là, ce qui est très confortable pour eux. Mais d'un autre côté, il faut comprendre aussi que la Chine est en train de connaître une situation très dynamique en termes de stratégie. Elle n'a pas une stratégie qui est très très claire, mais elle évolue. Elle évolue et elle fait évoluer ses stratégies. Et à chaque fois qu'elle investit, vous savez, pour chaque dollar investi par la Chine en Afrique, c'est un problème futur qui sera créé pour elle. Aujourd'hui, on a des millions de Chinois qui vivent en Afrique, de commerçants indépendants, de cadres d'entreprises, etc. La Chine a un énorme problème. C'est vrai que l'Afrique rapporte, je pense, 60 milliards de dollars chaque année à la Chine en termes de transfert d'argent.
Oui.
Et je pense que ça représente au moins 2 milliards de dollars de transfert de personnes chinoises vivant en Afrique. C'est vrai que ça représente une manne financière énorme et surtout gratuite pour les Chinois. Mais en contrepartie, plus il y a des Chinois, plus il y a de transferts, plus il y a de Chinois en Afrique, plus aussi il y a nécessité de couverture diplomatique, notamment de couverture consulaire, de protection, de sécurité, etc. Et tout ceci, aujourd'hui, fait que la Chine est un des pays au monde qui a la plus faible couverture consulaire pour ses ressortissants. Je pense que c'est un agent consulaire pour 200 000 ressortissants, ce qui est très, très loin des 1 pour 20 000 des États-Unis, par exemple. Donc, vous voyez, ça, ils sont dynamiques, mais la Chine crée aussi se crée à elle-même des problèmes qu'elle va devoir auxquels elle va devoir faire face dans l'avenir. Mais de manière plus simple, la Chine a besoin de quoi ? A besoin de comptoirs logistiques en Afrique du Nord et en Afrique de l'Est pour lier le continent asiatique à l'Afrique et à l'Europe. Et elle a besoin aussi de routes. De routes, que ce soit pour extraire les ressources africaines ou pour livrer sa marchandise. Donc, et là, elle est en train de travailler à ça, en train d'investir sur des infrastructures, etc. Et c'est clair que les Européens qui avaient cette vision extractive et exclusivement extractive de l'Afrique se retrouvent débordés par ce volontarisme chinois.
D'accord. Donc disons, pour les Africains...
C'est tout bénef.
C'est tout bénef, voilà.
C'est tout bénef, parce qu'au pire, ça va pousser les Occidentaux à changer de paradigme et absolument. À avoir une attitude mature avec les Africains.
Parce que c'est quand même étonnant de voir la presse française parler de Sénafrique ou peut-être même de Russafrique, je ne sais pas moi, après, sous-entend que c'est la même politique de domination, la même politique d'exploitation et de pillage qui n'est pas du tout vrai, parce que la Chine construit ce que les Occidentaux n'ont pas fait en Afrique. Elle construit les routes, elle construit les ports, des écoles, des infrastructures, et ainsi de suite. Bien. Alors, une dernière question à Karim Khalief avant de terminer donc, cette émission. J'aimerais quand même, par rapport à la Chine, vous poser une question sur l'aspect de son développement militaire, notamment en Méditerranée. Alors, on a la marine chinoise, et pour l'heure peu présente en Méditerranée. Donc, néanmoins, la possibilité d'une militarisation de sa présence est palpable avec le développement capacitaire de sa marine. Et selon certains experts, vu les projections actuelles, la taille de la marine chinoise aura augmenté de 138% entre 2008 et 2030, montant en gamme et renforçant ses capacités de projection, comme l'illustre d'ailleurs le lancement de deux premiers porte-avions chinois. Et on a trois, voilà.
Le troisième a commencé à naviguer cette semaine.
D'accord. Donc, nous avons la joie d'avoir ce scoop. La volonté donc de la Chine d'établir des points d'appui militaires, je crois que c'est tout à fait logique. Et vous venez de le dire, d'ailleurs, ça ne reste que pour protéger ses ressortissants, là où, qui sont en train d'être présents actuellement partout. Et d'appui militaire au-delà de sa périphérie régionale est démontré par la construction aussi d'une importante base, ça fait quelques années à Djibouti. Oui, et sur un site proche du Dutaroua de Bab el-Mandeb. Donc ce n'est pas par hasard que cette base militaire a été construite là-bas. Et puis, porte, à cause que c'est une porte aussi d'entrée à la Méditerranée. Bien, alors. Est-ce que cette militarisation de ces infrastructures a pour objectif de sécuriser uniquement ses investissements économiques et de protéger ses ressortissants dans la région, ou c'est un autre objectif qui est poursuivi, comme disent une certaine presse mainstream occidentale? Et on a auprès la jonction entre la présence russe et chinoise, deux pays donc majeurs des BRICS, augure-t-elle d'un changement des rapports de force en Méditerranée face à la marine américaine et de l'OTAN?
Bon, d'abord, la Chine est en train aussi d'essayer de s'installer en Afrique de l'Ouest, d'installer une base. Ils discutent avec de nombreux pays. Ce sera peut-être du côté du Ghana ou quelque chose comme ça. Une base qui serait équivalente à celle de Djibouti en termes de grandeur, parce que la base de Djibouti est quand même une infrastructure qui est très très lourde et très importante pour la Chine. Je pense que la Chine adopte une sorte de stratégie au cas par cas, ou du moins elle classe les pays, notamment africains, en quatre catégories. Donc vous avez ce qu'ils appellent eux les pays Donc, c'est une sorte de matrice. Il y a des pays qui sont sécurisés et avec un gouvernement qui est favorable à la Chine, qui est ami de la Chine. Vous avez des pays qui ont un gouvernement qui est favorable à la Chine, mais qui ont des problèmes de sécurité.
Oui.
Vous avez des pays qui ne sont pas sécurisés et qui ont un problème avec la Chine, et des pays où vous avez une paix, donc pas de problème de sécurité, mais un gouvernement qui est hostile à la Chine. Donc, ils adaptent leur stratégie en fonction de cette matrice-là. Donc, dans les pays, qui ont les moyens de sécuriser leur territoire et qui sont amis avec la Chine, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, donc ces pays-là, ils ne font rien parce que leurs intérêts sont supposés être sauvegardés par les pays ou autres. Vers la catégorie où la sécurité manque, ils essaient de venir en appui. Ils viennent en appui comment? En intégrant les forces de l'ONU, par exemple, les missions de paix. C'est pour ça qu'on a vu un contingent chinois au Mali, en RDC, etc.
D'accord.
Donc, vous avez des entités favorables à la Chine, mais avec des problèmes de sécurité. Et les autres pays qui ont un problème avec la Chine, ils vont avoir une approche plus politique, essayer de rétablir de bonnes relations pour après essayer au cas par cas traiter ces problèmes. Donc, c'est cette matrice qui est importante dans l'environnement.
Donc, la présence militaire, elle rentre dans une stratégie encore plus globale. Ce n'est pas,
exactement.
C'est pas un objectif étroit, strictement militaire.
Exactement. Et le but, c'est protéger leurs hommes, protéger leurs investissements. S'ils arrivent à le faire par juste aider politiquement des pays et avoir une bonne relation, ils le feront comme ça parce que ça ne leur coûtera rien. Et si il y a besoin, ils mettront des moyens. Je pense que dans un avenir proche, la Chine va devenir un grand acteur dans le domaine des sociétés militaires privées. Je pense que dans les 5 prochaines années, on va voir de plus en plus d'entreprises militaires chinoises intervenir, notamment en Afrique et en Asie centrale pour sécuriser les voies de communication. Et je pense que ce sera la réponse de la Chine aux problématiques futures.
D'accord. Mais est-ce que, justement, je terminerai avec ça, avec les montées des tensions autour de Taïwan, comment voyez-vous la chose? Parce que c'est quand même un peu difficile d'aller se projeter un peu partout, alors que juste en face de nous, comme à Taïwan, la situation chauffe.
Oui, c'est un grand problème pour la Chine. Je pense que le gouvernement chinois ne veut pas d'une guerre, veut d'une solution, progressive et lente pour résoudre le cas de Taïwan, mais on voit que que la crise de Taïwan est alimentée par de l'armement états-unien, une diplomatie états-unienne qui est très agressive, et ça crée des dissensions à l'intérieur du régime chinois. Donc oui, en effet, c'est un facteur de déstabilisation, comme le sont la position, par exemple, de la Corée du Nord, etc. Parce que la Chine, non seulement est en porte-à-faux avec les États-Unis, se retrouve en confrontation avec les États-Unis, mais elle se retrouve aussi en confrontation avec la Corée du Sud, le Japon, l'Australie,
qui sont les alliés des Américains.
Et les Philippines, via alliés des Américains ou protégeant leurs propres intérêts. Donc, je pense que c'est à cause de cela que la Chine a décidé de lancer sa Road and Belt Initiative et d'aller plus vers les terres, de s'allier avec l'Inde et la Russie pour assurer de la logistique et contourner cette confrontation qui existe dans la région Pacifique.
D'accord. Chers auditeurs, notre émission arrive à sa fin. Akram Khalief, je vous remercie pour toutes ces analyses et ces éclairages. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
Merci.
C'était Akram Khariev, expert en sécurité et en défense, fondateur et animateur du site d'information militaire MENA Défense. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique. Je suis Kamal Louage, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.